Minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Et bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Galère 88.4. C'est les infos choisies. On est vendredi, il est 12h30.
Et on est en direct donc sur Radio Galère et Radio Aioli en Avignon.
Voilà.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Et on sera rediffusé lundi matin
à 7h30.
Exactement.
Alors.
Par quoi commençons-nous?
Eh ben, en ce moment, on entend beaucoup parler des incendies en Gironde, mais on voulait aussi rapporter l'attaque fasciste de la nuit du 24 au 25 juin dans le quartier de Saint-Michel, qui est un quartier populaire. Barre de fer, cris de singe, mort aux Arabes, salut nazis, etc. Des images ont circulé, encore une fois. Faut-il voir des vidéos pour croire en l'intensité de la violence ou comprendre le retour des ratonnades?
C'était à Bordeaux, c'est ça?
C'est ça.
Alors oui, c'est... Donc il y a les incendies, on en parle aussi dans les calanques, puisque les calanques sont fermées. Elles sont fermées à la balade et Sugiton, on doit le réserver. On doit réserver Sugiton pour pouvoir... On doit réserver sur Internet pour pouvoir avoir accès à Sugiton.
Avoir un petit QR code, n'est-ce pas?
Et on réserve 3 jours avant surtout, c'est ça qui est hallucinant. Et on n'est même pas sûr d'y avoir accès, puisque ça dépend aussi l'accès des incendies, quoi, du risque d'incendie. Alors donc c'est un peu quand même bizarre, et voire même surréaliste qu'on y pense, quand on y pense, de devoir réserver l'accès à un espace dit naturel. Et la question qu'on se pose, c'est mais qui est au courant au juste? Non, parce que, en fait, est-ce que ce sont des pratiques à la portée de tous et toutes? Parce que ça suppose quand même de savoir se servir d'Internet et d'avoir le réflexe de se renseigner avant d'aller se balader. Et il y a là aussi la question des incendies qui se pose, parce que ils auraient quand même pu, enfin, en tout cas, les autorités auraient pu y réfléchir avant de développer ce fameux tourisme de masse, là, qu'on voit depuis quelques années sur Marseille, qui est juste basé sur le consumérisme, et ça c'est une conséquence de cette manière d'organiser le tourisme à Marseille.
Et en lien avec ça, on pourrait parler aussi de Airbnb.
Ah mais oui, parce que je ne sais pas si vous avez été voir, mais des petites choses, voire des cadenas ont poussé cet été dans les rues de Marseille, notamment au centre-ville. Alors c'est des petits cadenas qui sont accrochés un peu partout, sur les grillages et puis sur les barres de fer qui longent les trottoirs, dans lesquels il y a une petite clé magique qui donne accès à un appartement tout beau, tout propre, donc à Airbnb. Et depuis quelques jours, il y a des personnes bien intentionnées qui ont décidé de les rendre un petit peu plus visible en y collant des stickers où il est inscrit moins de Airbnb et plus de HLM, ou alors sur la plaine, un habitant disparaît toutes les 5 secondes. On dit bravo les petits malins et les petites malignes, c'est un début.
Les infos choisies vendredi 12h30.
Les infos choisies vendredi 12h30.
Les infos choisies vendredi 12h30.
Feuilleton de l'été.
Et ouais, le feuilleton de cet été, je vous rappelle, il se passe à l'Assemblée nationale. Bon, c'est pas pour autant ce qu'il s'y raconte qui est intéressant, mais bel et bien ce qu'il s'y passe. Petit résumé du second épisode. Alors qu'Isabelle doit répondre aux premières questions adressées au gouvernement, son esprit est ailleurs. Elle est très préoccupée. Depuis que Emmanuel a fait part à la France entière de son problème testiculaire, elle doit se rendre à l'évidence. Le poste qu'elle occupe n'est peut-être pas fait pour elle. Tous les regards sont maintenant rivés sur le pantalon d'Emmanuel. Isabelle se rend compte qu'elle ne peut résister à lui poser la question. Mais, Emmanuel, comment tu fais? Comment c'est possible? Comment elles font pour ne pas se toucher? C'est à l'abri des regards qu'Emmanuel lui explique le subterfuge. Emmanuel a compris depuis toujours qu'en prenant les gens pour des cons, il avancera toujours plus vite qu'eux. Isabelle est subjuguée par l'intelligence au ras des pâquerettes de son chef de l'État. Elle se dit qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Mais les Français se rendront-ils compte de la supercherie? Se réveilleront-ils un jour avec l'impression étrange de s'être fait avoir? Ou auront-ils enfin compris que lorsque quelqu'un qui a fait de la merde et qui est pris la main dans le sac s'adresse aux gens du pays qu'il dirige en leur disant « c'est comme ça et si c'était à refaire, je le referais » Se rendront-ils compte que la seule réponse possible, c'est le coup de boule? On l'espère. La suite au prochain épisode.
Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 FM.
Le numéro 55 du journal L'Envolé interdit en prison. Des prisonniers et des proches ont informé L'Envolé que dans plusieurs prisons, des surveillants sont intervenus pour confisquer le dernier numéro de L'Envolé, le numéro 55, paru en mai 2022. Ils sont même allés jusqu'à la fouille de cellules en cas de refus. L'équipe de L'Envolé a alors découvert qu'une note interne de la direction de l'administration pénitentiaire interdit au nom du garde des Sceaux la lecture de ce numéro à toutes les personnes détenues à cause de l'article entre guillemets distribution de permis de tuer au tribunal de La Rochelle, fermez les guillemets. Cet article, c'est le récit du procès auquel certaines personnes de L'Envolé ont assisté au tribunal de La Rochelle fin novembre 2021. 7 surveillants y étaient jugés pour leur responsabilité dans la mort de Sambali Diabaté en août 2016 à la prison de Saint-Martin-de-Ré. C'est la deuxième fois en 2 ans qu'un numéro de L'Envolé est interdit en détention. Le précédent, le numéro 59, avait en prime fait l'objet d'une plainte pour diffamation, sans nouvelle à ce jour. Ce qui avait alors justifié l'interdiction, c'était tout un dossier qui portait déjà sur les violences pénitentiaires et les morts suspectes. C'est, on ne peut plus clair, l'administration pénitentiaire entend faire taire celles et ceux qui osent soutenir que des pratiques des matons mettent en danger l'intégrité physique des prisonniers-prisonnières, alors que c'est hélas une évidence pour toutes celles et ceux à l'intérieur. Ces interdictions à répétition visent à mettre la pression aux abonnés de l'intérieur et à dissuader des prisonniers-prisonnières d'entrer en relation avec L'Envolé ou de recevoir le journal. Il s'agit en fait, bel et bien, de censurer un organe de presse qui entend servir de porte-voix aux prisonniers-prisonnières et leur permettre d'échanger informations et points de vue. Si le journal ne pouvait plus rentrer en détention, il perdrait toute raison d'être. Et les personnes enfermées se verraient privées d'un des rares moyens dont elles disposent pour dénoncer ce qu'elles subissent derrière les murs. Cette fois-ci, l'article montre simplement comment l'administration pénitentiaire et la justice travaillent main dans la main pour protéger les surveillants les plus violents, même quand ils tuent un homme. La machine d'État ne fera pas taire L'Envolé. Elle ne réduira pas au silence les prisonniers et prisonnières qui ont raison de se révolter.
Alors, puisque la pénitentiaire veut pas que cet article tourne, eh ben, on va en parler un peu. Cet article, c'est un compte-rendu du procès des matons responsables de la mort de Sambali Diabaté, comme tu le disais, à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré en 2016. Quelques extraits remaniés, la version complète est sur l'envolé.net. L'article est intitulé « Distribution de permis de tuer au tribunal de La Rochelle ». Du 29 novembre au 1er décembre, L'Envolé était au tribunal correctionnel, non pas les assises de La Rochelle, pour soutenir la famille de Sambali Diabaté. C'était le procès des matons responsables de sa mort. Sa mort qui a eu lieu le 9 août 2016. 7 surveillants devaient répondre de chefs d'accusation dérisoires au regard des faits, allant de l'homicide involontaire à la non-assistance à personne en danger. Le procès, qui est inédit puisque des matons devaient pour une fois répondre de la mort d'un prisonnier, nous a confirmé une nouvelle fois que arbitraire, déshumanisation, brutalité et permis de tuer sont bien installés, particulièrement derrière les murs des tôles. Le 16 août 2016, Sambali Diabaté, prisonnier de longue peine, est extrait de sa cellule et refuse de passer sous le portique de sécurité. Georges Guénaud, un maton, l'agrippe par l'épaule pour le forcer à passer. Sambali résiste. Le maton le plaque au mur, puis le jette au sol avec d'autres collègues. Le maton tente alors une clé d'étranglement et Sambali le mord à la main pour se dégager. C'est le point de départ d'une interminable violence. Déjà immobilisé au sol, des prisonniers témoignent de nombreux coups qui lui ont été portés à ce moment-là, tandis que le maton mordu est emmené à l'infirmerie et sera absent du procès. Aucun prisonnier n'a été entendu lors du procès et les bandes vidéo ont, elles, disparu. Très étonnant. À la barre, les matons nient avoir porté le moindre coup. Un autre maton, Pascal Ringeonneau, genou planté entre les omoplates de Sambali, décide de le bâillonner avec une serviette essuie-main venue des chiottes. À la barre, il préfère dire le mot « mort » plutôt que « bâillon », censé, selon lui, protéger Sambali contre des chocs éventuels. Hallucinant. Puis après lui avoir scotché les mains et les jambes, les matons ont transporté Sambali dans la lingerie de la prison, lieu tristement célèbre de cette prison pour ses tabassages de détenus puisque dépourvu de caméra. Un des matons présents ce jour-là s'est suicidé après avoir été mis en cause dans l'affaire. Et puis ils ont décidé de transférer Sambali au mitard, situé à 500 mètres du bâtiment principal. Normalement le transfert doit être fait en fourgon spécial, là il était fait avec un simple véhicule utilitaire. À l'arrivée de Sambali au mitard, il semble qu'il soit déjà mort. Mais sur le moment, comme au tribunal, tous les matons font comme si de rien n'était. Ils procèdent à une fouille à nu et le placent dans la cellule du mitard au sol face contre terre. Au tribunal correctionnel, c'est une mascarade de procès. Les matons du quartier disciplinaire qui ont reçu Sambali déjà mort au mitard sont absents. Le procureur est le même procureur qui a jugé Sambali et qui l'a mis en prison quelques années plus tôt. La défense est remplie de mensonges. Le syndicat policier fait son travail de faire coïncider les mensonges. Et l'avocat des matons demande, je cite, « évidemment la relaxe et surtout par pitié que ces fonctionnaires exemplaires déjà durement atteints par ce terrible accident ne se voient pas privés de poursuivre leur sacerdoce à la prison de Saint-Martin-de-Ré. » S'il y a un procès de maton, ce qui est extrêmement rare dans ce genre d'affaires, c'est grâce à la sœur de Sambali, Oumou Diabaté, qui s'est battue pour qu'il ait lieu. Lorsqu'elle est appelée à comparaître, elle s'adresse au maton. « Je voudrais que ces gens n'aient plus jamais le droit de travailler. Je suis dame de cantine. J'ai peut-être même nourri certains de vos enfants. Si un petit tombe malade à cause de la nourriture que je lui ai donnée, je suis renvoyé le jour même et c'est normal. Je ne peux pas comprendre que vous ayez tué mon frère et que vous soyez encore à Saint-Martin. » Le rendu du procès est tombé le 27 janvier 2002. Trois peines de 12 à 24 mois de sursis ont été prononcées contre les matons qui ont directement étouffé Sambali, reconnus responsables d'un homicide volontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Pascal Ringeonneau, 2 ans avec sursis, Stéphane Lefebvre, 18 mois avec sursis et Rémi Cormier, 18 mois avec sursis, peuvent continuer leur sale boulot à Saint-Martin-de-Ré. Seul accusé de violence volontaire, Jean-Paul Ducorneau, qui ne fait pas partie du même syndicat que les autres, prend 1 an avec sursis assorti d'une interdiction d'exercer et de porter une arme pendant 5 ans, et les 3 accusés de non-assistance sont purement et simplement relaxés. Voilà la teneur de l'article qui a valu au dernier numéro de l'Envolé d'être interdit de distribution en prison. Et vous pouvez le retrouver en intégralité avec beaucoup plus de détails sur l'envolé.net, l'envolé tout attaché au féminin.net.
Alors avant de passer à la lecture d'un poème qui va être diffusé tout à l'heure, on voulait juste rappeler qu'il y avait une grève de la faim au centre de rétention du Canet à Marseille, où les prisonniers s'organisent avec comme revendication leur libération et non pas l'aménagement des conditions de détention, mais bien leur libération. Donc la situation sanitaire est plutôt catastrophique dans le centre de rétention du Canet à Marseille. Entre la tuberculose et le Covid, le manque de clim et d'eau fraîche, les prisonniers sont à bout et les autorités s'en foutent. Les prisonniers du Peigne 1C et OC, qui sont des quartiers, s'organisent et font la grève de la faim avec comme revendication leur libération. Ah, c'est une... Alors il y a des témoignages sur Mars Info autonome où vous pouvez donc les retrouver. Ils sont en haut dans l'article, sur la page d'accueil. Et juste rappeler que leur objectif reste quand même d'être libérés et non pas d'aménagement de leurs conditions de détention.
Plus d'infos sur mars-info.org et puis vous pouvez aussi vous rapprocher du collectif Anticra de Marseille pour filer des coups de main et faire des trucs.
Et c'est eux qui extraient aussi les témoignages qui sortent sur Mia.
Le poème du pont. J'en ai assez. J'en ai marre de voir et de toucher les deux côtés des choses. Marre d'être le foutu pont pour tout le monde. Personne ne peut parler à personne sans moi, n'est-ce pas? J'explique ma mère à mon père à ma petite sœur à mon frère aux féministes blanches, les féministes blanches aux gens de l'église noire, les gens de l'église noire aux excipies, les excipies aux séparatistes noirs, les séparatistes noirs aux artistes, les artistes aux parents de mes amis. Ensuite, il faut que je m'explique à tout le monde. Je fais plus de traductions que les maudites Nations Unies. Laisse tomber. J'en ai marre. J'en ai marre de compenser vos manques. Marre d'être votre assurance contre l'isolement des limitations que vous vous imposez vous-même. Marre d'être la folle dans vos dîners de vacances. Marre d'être la bizarre dans vos brunchs dominicaux. Marre d'être la seule amie noire de 34 individus blancs. Trouvez une autre connexion au restant du monde. Trouvez quelque chose d'autre pour vous légitimer. Trouver un autre moyen d'être politique et branché. Je ne serai pas le pont vers votre féminité, votre masculinité, votre humanité. J'en ai marre de vous rappeler de ne pas vous enfermer trop étroitement pour trop longtemps. Je suis fatiguée de négocier avec votre pire moi, au nom de vos meilleurs moi. J'en ai marre d'avoir à vous rappeler de respirer avant que vous vous étouffiez, bouffon, bouffonne. Laissez tomber. Étirez-vous ou noyez-vous, évoluez ou mourrez. Le pont que je dois être est le pont vers ma propre force. Je dois traduire mes propres peurs, médier mes propres faiblesses. Je dois être le pont vers nulle part, sauf vers mon vrai moi. Et alors, je serai utile. C'était The Bridge Poem de Donna Kate Rushkin, traduction de Paola Bacchietta et Jules Falquet.
Et maintenant, on passe à...
L'agenda des infos choisies, voilà, magnifique, ce nouveau générique.
Alors, pour l'agenda, on voulait rappeler les rendez-vous de demain pour l'ouverture du festival Umoja, qui est un festival queer. Alors, le festival Umoja inaugure son édition 2022 avec un plateau en direct sur les ondes de Radio Galère. Demain, wow. Samedi 16 juillet, de 14h30 à 19h.
Ça se passe ici même, à la Friche, au 41 rue Jobin, dans le 3e arrondissement de Marseille, à la Belle de Mai. Voilà, aux grandes tables. Alors, les grandes tables, c'est le grand resto là-haut, là, au 2e étage. Du coup, il va y avoir un plateau qui va être installé et il y a deux tables rondes. La première, c'est de 14h30 à 16h sur la thématique « Quelle place dans les arts institutionnels pour nos expressions ?» Comment se structurer dans des espaces qui ont mis nos récits à l'écart. Et la deuxième table ronde, c'est de 16h40 à 19h sur le thème suivant. Comment la création artistique et la mise en valeur d'imaginaires hors normes nous permet de visibiliser les violences pour espérer en guérir et prendre soin de nous. Vous êtes les bienvenus sur place et sur les ondes de Radio Galère.
Ouais, puis donc le festival, il a lieu du 16 au 22 juillet. Vous pouvez trouver plus d'infos sur Facebook, Insta, etc. Et quelques détails. Donc le festival est ouvert à toutes et tous, évidemment. Tous les événements seront gratuits, à l'exception de la soirée au cabaret aléatoire, qui sera payante pour pouvoir payer les artistes, les frais du festival et la salle, etc. Et le festival est dédié à toutes celles et ceux qui nous manquent aujourd'hui, effacés, oubliés, marginalisés et parfois tués par l'impérialisme et la suprématie blanco-hétérosexuelle patriarcale, pour Ibrahim Ali, pour Maya, pour tous nos amis qui nous ont laissés, pour les morts de la rue d'Aubagne, pour celles et ceux qui, au péril de leur vie, traversent la Méditerranée, pour toutes les personnes trans qui n'y arrivent plus, pour toutes les enfermées, que ce soit dans nos têtes, dans nos corps ou entre quatre murs, pour les victimes de la négrophobie, de la transphobie, de la misogynie noire, de la transmisogynie, de toutes les queerphobies, du sexisme et plus généralement du capitalisme, pour toutes celles et ceux qui restent et qui ont besoin de se rencontrer, pour les joies qu'il nous reste à vivre et pour l'amour que l'on peut encore se porter, c'est pour tout ça qu'on vous invite à venir vous célébrer, réfléchir et lutter, rire et pleurer, tout lâcher et surtout, ensemble, danser sans jamais s'arrêter. C'est le festival Umoja du 16 au 22 juillet à Marseille, à la Friche.
Et c'est important de préciser que les personnes afrodescendantes et les personnes trans sont mises à l'honneur dans ce festival.
Bah voilà, on arrive à la fin de cette émission.
Oui.
On peut peut-être rappeler juste l'émission, qu'on a une émission le 2 septembre.
Oui,
oui, une matinale.
De 8h à 10h le 2 septembre, c'est dans le cadre des 40 ans de Radio Galère. Du coup, il y a une grande semaine de programmation spéciale. Et tous les matins, il y aura des infos de 8 à 10. Et nous, on sera le 2.
Et qu'on attend vos contributions sur la
thématique de la durée. Durée, dur et...
Ah ouais, voilà. J'avais oublié cette thématique.
J'ai compris, urée aussi, d'apostrophe, bref. Et donc du coup...
C'est pas possible, on peut pas finir une émission comme ça.
Bon, on est rediffusé lundi à 7h30, on attend vos appels à contribution et on se retrouve le 2 septembre pour les personnes qui sont en vacances et qui sont pas dans le coin pour une grande matinale.
Ciao, ciao, à la semaine prochaine, à midi et demi sur Galère. Et à Yoli.